Si ça vous tente de faire un beau voyage dans le temps, grâce à une belle histoire, un beau roman, je vous propose Maître chez soi. C'est le nouveau roman de Monsieur Jean-Pierre Charland qui est avec nous. On en discute tout de suite. Monsieur Charland, bonjour.
Bonjour.
Titulaire d'un doctorat en histoire et d'un autre en didactique, Monsieur Charland, vous êtes aujourd'hui un professeur d'université à la retraite. Vous avez publié plusieurs séries historiques, il faut le mentionner. Beaucoup de succès à part ça, notamment Génération 1970, La Pension Caron, Odile et Xavier. On s'est jasé l'année dernière avec Passe-temps, cette série de deux tomes. Et là, déjà, vous nous arrivez avec une nouvelle série qui comprendra également deux tomes, hein, Monsieur Charland?
Oui, c'est ça.
Pourquoi avoir choisi les années 60 cette fois-ci? L'inspiration était là?
Ben, c'est ça, j'essaie de repasser, d'explorer l'histoire du Québec et j'étais mûr pour revenir dans les années 60. Il y a quelques années, j'avais rédigé 1967. Mais cette série-là se passe au tout début des années 60. C'est le début de la Révolution tranquille au Québec.
Alors, c'est l'histoire de la famille Chevalier qui perd sa ferme. On est en région, à Nicolet. Et là, on s'en vient vivre à Montréal. C'est pas la même vie du tout qui les attend, là.
C'est ça. Et c'est un phénomène qui était assez fréquent au Québec à cette époque-là.
Ah oui?
Il y avait un mouvement concerté là, pour que les fermes les plus petites disparaissent au profit des plus grandes. Alors, moi, dans la paroisse où je suis né, il y avait peut-être 80 cultivateurs au moment de ma naissance. Aujourd'hui, il en reste 12 ou 15, c'est le maximum. Alors, au début des années 60, la tendance était de voir disparaître les plus petites au profit des agriculteurs les plus prospères. Et tous ces gens-là devaient se retrouver en ville. C'est ce phénomène-là que je décris.
Et le fait de vouloir déménager en ville, on avait de grands rêves aussi, là.
Pardon?
On avait des grands rêves en déménageant en ville.
Oui et non. Certaines personnes avaient des grands rêves, mais pas en ce qui concerne le personnage du roman et la plupart de ceux qui déménagent en ville.
Oui.
C'est le résultat de leurs difficultés économiques. Et c'est dans un contexte, donc, là, de pauvreté et d'échecs financiers qui faisaient qu'ils se retrouvaient en ville. Alors, c'était moins un mouvement auquel ils avaient aspiré que quelque chose qu'ils subissaient.
Oui. La religion avait une importance encore très importante là, auprès des familles.
Au début des années 60, oui, mais c'est la décennie pendant laquelle ça va changer.
Mm-hmm.
En fait, c'est très particulier parce que les Québécois sont passés de la population à peu près la plus religieuse qu'on puisse imaginer à la population la moins religieuse. Et ça s'est fait en quelques années. Les gens ont cessé de pratiquer, les gens ont cessé d'avoir la religion comme repère essentiel dans leur existence. Et ça s'est fait en douceur, mais c'est un mouvement qui est irrémédiable. C'est comme si l'adhésion auparavant était de surface et on a quitté là, sans trop de difficultés pour avoir un mode de vie qui devient tout à fait laïque.
Si on donnait de plus amples détails maintenant concernant la famille Chevalier qui déménage, vous les amenez à Verdun?
Oui. En fait, je les amène c'est une ville de banlieue, mais c'est surtout une ville dortoir. Ça a 65, 70 000 habitants au début des années 60. Moitié anglophone, moitié francophone. Et la plupart des gens travaillent à Montréal. Alors, ce sont des gens qui entrent à la maison pour dormir essentiellement. C'est sûr qu'au niveau local, il y a des emplois dans les magasins, les restaurants, etc. Mais les plus gros employeurs se trouvent du côté montréalais.
Parlez-nous des enfants Antoine et Marie-Paul.
Oui, en fait, ce sont... Antoine a 17 ans au début du roman, en 1961. Oui. Marie-Paul a 16 ans, alors un an plus jeune. Ce sont deux enfants qui sont nés là, à un an d'intervalle. Pas tout à fait un an d'intervalle, comme je l'explique dans le roman. Il manque quelques jours pour que ce soit un an.
Oui.
Et qui sont, après la seconde naissance, comme la mère a été très malade, vous savez, grande opération dans les années 1960, 1950, parfois on se demande si c'était pas le moyen contraceptif rêvé, là. Alors, c'est une opération qui survenait beaucoup plus fréquemment, j'ai l'impression, que les nécessités médicales. Mais ça mettait fin à la famille. Alors, ce sont deux enfants qui sont très proches compte tenu du fait que leur mère était hospitalisée tout de suite après la naissance du deuxième enfant de Marie-Paul. Alors, ça crée entre eux un lien qui est un peu particulier entre frères et sœurs.
Il y a vraiment une belle complicité entre les deux, là. On le sent, là, dès le départ.
En fait, c'est comme des jumeaux qui sont nés à une année d'intervalle.
Effectivement, c'est vrai. Il y a une belle complicité et ils vont vouloir travailler là, en arrivant en ville.
C'est ça. À une époque où le chômage est quand même élevé au Québec, alors ça devient difficile. Marie-Paul se trouve simplement gardienne d'enfants. C'est le type d'emploi très mal rémunéré. Heureusement, elle tombe avec une patronne sympathique parce que ça pouvait aussi être des emplois qui étaient vraiment difficiles à vivre. Dans le cas de son frère, mais il se ramasse, c'est l'avantage d'être de la campagne et d'être plutôt robuste, il se ramasse dans un entrepôt à décharger des camions. Alors, ce sont pas des emplois très prestigieux ni très payants, mais ça leur permet de gagner un peu d'argent pour poursuivre leurs études.
Effectivement. Et là, dans ce premier tome-là, là, ça couvre combien d'années, M. Charland?
Le premier couvre simplement la période d'arrivée en ville. Alors, ça va du mois de du 1er juillet jusqu'au début du mois de septembre, jusqu'au début de l'année scolaire.
Okay.
Le deuxième tome, qui va sortir au mois d'avril, lui, se déroule en 1962. Alors, j'ai sauté une année. Le premier se termine avec la rentrée scolaire de 1961 et le deuxième commence avec la rentrée scolaire de 1962.
Okay.
Alors, c'est 1962 pour les Québécois, là, c'est important. Il y a une élection anticipée pour décider de la nationalisation de l'hydroélectricité. Et c'est aussi important au niveau international. C'est l'année de la crise des missiles à Cuba.
C'est
une année où, là, il y a un peu de mes souvenirs personnels qui interviennent, parce que dans le roman, je raconte que les religieuses faisaient prier pour préserver la guerre, la Troisième Guerre mondiale. En fait, comme ambiance, ça devait ressembler un peu à aujourd'hui, avec les menaces de guerre.
Mmh.
Et je me souviens que les religieuses faisaient prier pour éviter un conflit nucléaire.
Mmh.
Alors, c'était vraiment comme... On vivait sous la menace de la fin du monde.
60 ans plus tard, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup, hein?
Oui, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on ne s'en était pas inquiété, mais effectivement, ça permet de comprendre comment les gens pouvaient se sentir à cette époque. Avec la grande mode de se construire des abris nucléaires, soit dans son sous-sol, soit dans la cour arrière des maisons.
Et à cette époque, M. Charland, les femmes sortaient un peu plus de la maison aussi, on travaillait à l'extérieur?
C'est vraiment le début. À cette époque-là, par exemple, pour les enseignants, il était prévu dans les conventions collectives qu'ils se retirent au moment de leur mariage ou au moment du premier enfant. Alors, il y avait les jeunes femmes étaient sur le marché du travail, mais la tradition voulait qu'elles se retirent au moment du mariage. Et ça, c'est dans les années 60 que ça va changer.
Mmh.
Et ça devient d'ailleurs, c'est pas vrai en 1961 parce que le chômage est élevé, mais plus tard, dans les années 60, les anciens employés deviennent un espèce de bassin de recrutement pour les entreprises. Alors, des jeunes femmes qui avaient travaillé à 18, 19 ans, 20 ans, qui avaient quitté pour se marier, vont se faire réembaucher au même endroit quelques années plus tard. Compte tenu, avec l'Expo 67, le chômage va être réduit considérablement. Alors, on va se mettre à recruter les anciens employés. Et après 1967-68, mais là, les femmes sont sur le marché du travail et la proportion va grandir là, année après année. Aujourd'hui, la main-d'œuvre féminine est la moitié de la main-d'œuvre totale. C'est sympathique.
C'est un beau roman pour découvrir les années 60 pour ceux et celles qui n'ont pas connu. Pour d'autres, ça peut leur rappeler de beaux souvenirs. Maître chez soi, le premier tome, Le déracinement de M. Jean-Pierre Charland, 376 pages, 26,95 $. C'est aux éditions Urtubise. Ça, c'est le premier tome qui est sorti depuis quelques jours. Et le deuxième, vous l'avez mentionné, M. Charland, il sera disponible au mois d'avril.
C'est ça.
Merci beaucoup pour ces quelques minutes. Ça a été un plaisir et je poursuis ma lecture.
Merci bien.
Merci, M. Charland. Au revoir.